Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec le Café de la Bourse pour un exercice de pédagogie boursière. Et c'est Louis Yang qui est avec nous ce mois-ci et ce soir dans Smart Bourse, cofondateur du Café de la Bourse. Bonsoir Louis.
Bonsoir Grégoire.
Merci beaucoup d'être là. Tous mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année. Vous nous apportez, alors là, sur un plateau, le match entre le PEA et le CTO, le compte titres ordinaire. Quel est le meilleur outil pour investir en bourse en 2025 avec ces deux grandes enveloppes traditionnelles de l'investissement boursier français, Louis? Prenons le PEA pour commencer. Quels sont les grands avantages du PEA pour investir en bourse?
Quand on pense PEA, on pense évidemment à la fiscalité attractive. Très clairement, c'est vraiment l'atout. C'est que lorsque on ne sort pas du PEA, il n'y a pas d'imposition dessus. Donc, on peut faire ces opérations, générer des dividendes, des plus au sein du PEA sans être imposé. Et pour un PEA dont la date d'ouverture a plus de 5 ans, si on sort, on paye uniquement les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% actuellement. Donc ça, c'est vraiment le principal atout du PEA.
Et c'est bien dans cette affaire la date d'ouverture du PEA qui compte. Alors généralement, il faut mettre un peu d'argent dessus, mais vous n'êtes pas obligé de l'abonder fortement. C'est bien la date d'ouverture qui compte pour cette période de 5 ans. Hein.
Tout à fait, on peut prendre date. D'ailleurs, les montants, ça dépend des intermédiaires financier, c'est peut-être 500 euros. Enfin, vraiment, on peut ouvrir un PEA et prendre date le plus tôt possible sans forcément l'abonder régulièrement.
Exactement.
Ou avec des montants conséquents.
Bon, donc, de l'autre côté, nous avons le CTO, le compte-titres ordinaire. Quels sont les avantages du compte-titres pour investir en bourse?
Alors, le compte-titres, du coup, c'est la flexibilité. Parce que avec un compte-titres, normalement, on a la possibilité, enfin, théoriquement, on a la possibilité d'investir sur tout type de produits financiers, des actions du monde entier. Donc, ça, c'est la théorie. Et en fait, en pratique, ça va dépendre des comptes-titres. En fonction du compte-titres qui est proposé par la banque ou le courtier en bourse ou le courtier en ligne, les accès aux produits vont tout de même différer.
D'accord.
Mais on va dire qu'en théorie, on a vraiment la possibilité d'avoir accès à un panel très large de produits d'investissement et ça permet de mettre en place des stratégies assez évoluées si on le souhaite.
À condition que le courtier ou la banque vous les propose, quoi. C'est
exactement.
Ça l'idée.
Exactement.
Comprends. Ok. Bon, si on regarde les inconvénients de ces deux enveloppes, pour le PEA, qu'est-ce qui est peut-être moins bien disant ou pénalisant quand on se sert d'un PEA pour investir en bourse?
C'est les contraintes en termes d'actions ou de produits qu'on peut prendre, ça va être
à l'inverse
du compte-titres, exactement. On va être restreint aux valeurs européennes et après on va avoir un certain panel d'OPCVM ou d'ETF possible. Avec les ETF, il y a aussi une possibilité de contourner un petit peu l'accès aux valeurs européennes uniquement. Mais voilà,
on peut mettre un ETF monde dans un PEA,
exactement,
c'est ça. Et avec l'ingénierie financière aujourd'hui, c'est possible.
Avec la réplication synthétique.
Exactement.
Donc, du coup, mais par contre, on peut pas aller choisir une action en particulier.
Non.
Ça va vraiment être via des ETF qu'on pourra contourner.
Ouais. Sur le compte-titres, où sont les limites du compte-titres pour investir en bourse?
Là, pareil, c'est l'inverse, en fait. C'est-à-dire que le compte-titres, il n'y a aucun avantage en matière de fiscalité. Donc, c'est soit la flat tax à 30%, soit si vous êtes au début des tranches marginales d'imposition, optez pour l'impôt sur le revenu au barème, plus les prélèvements sociaux qui s'appliquent.
Bon, comment on choisit? C'est-à-dire, là, pour 2025, ceux qui vont vouloir s'engager dans l'aventure boursière, quelles sont les questions qui doivent se poser pour choisir entre le PEA et le compte-titres?
Alors, ça va dépendre du profil. Et effectivement, il y a plusieurs critères de profil qui vont nous faire choisir soit un PEA, soit un compte-titres. Par exemple, si on est un jeune investisseur, à ce moment-là, je pense qu'il y a un intérêt à vraiment prendre un PEA le plus vite possible pour prendre date, pour pouvoir après faire jouer le temps dont on dispose puisqu'on est jeune et capitaliser ses investissements. Donc le PEA, ça a un avantage par rapport à ça, surtout que lorsqu'on est jeune investisseur, souvent on est aussi un petit peu plus débutant. Donc le fait d'avoir un panel de produits financiers plus restreint et ne pas avoir accès à des stratégies plus complexes, ça peut être aussi un avantage.
Ouais.
Donc pour ce type de profil, PEA.
Est-ce qu'il n'y avait pas un PEA jeune même à un moment?
Récemment.
Il n'y a pas eu un PEA jeune
ça
aussi.
Ça n'a pas beaucoup marché.
Ouais,
il y a un PEA jeune qui existe tout à fait pour les 18-25 ans.
Ouais, c'est ça.
Oui, ça existe tout à fait.
Je me disais bien. Bon, donc si c'est vraiment l'âge qui compte, ok, le PEA c'est de toute façon un produit qu'il faut avoir, j'imagine, dans son outillage de gestion patrimoniale, d'une certaine manière.
Oui, tout à fait.
Le compte-titres, qu'est-ce qui peut faire l'avantage du compte-titres en fonction de notre profil d'investisseur ?
Le compte-titres, dans le contexte actuel, ce qui s'est passé l'année dernière et dans le contexte dans lequel on est actuellement, on voit bien qu'il y a un énorme différentiel entre les marchés américains et les marchés européens et français. Je prends juste cet exemple-là. Je crois qu'il y a un différentiel de 30% de performance sur 2024. Et cette année, pour l'instant, les métriques n'ont pas l'air de s'inverser. Donc très clairement, si on a un investisseur plus aguerri, plus opportuniste qui veut aller chercher de la performance, il faut aller sur le compte titre. Ouais. On peut aller sur des valeurs les Magnificent Seven, Nvidia ou d'autres. Enfin, il y a beaucoup de stock picking qui peut être intéressant sur des valeurs américaines qu'on peut aller chercher via le compte-titres. Donc, investisseur plus aguerri qui a envie davantage diversifié, compte-titres. Un autre profil aussi, c'est qu'on est quand même dans un contexte où il y a pas mal d'incertitudes. La volatilité, c'est quelque chose qui peut se maîtriser. Donc, si on veut mettre en place des stratégies plus évoluées, par exemple de couverture de portefeuille ou d'aller sur des produits dérivés, compte-titres aussi.
Ouais. Donc, de sophistication, exactement. On va dire, dans le compte-titres, hein, c'est ça.
Exactement.
Ouais. Bon, est-ce que l'un est exclusif de l'autre ou est-ce qu'on peut se dire je veux avoir un PEA et un compte-titres? Et est-ce que c'est une bonne idée d'avoir les deux? Et dans quel cas c'est une bonne idée d'avoir les deux?
Voilà, exactement. C'est encore une fois une question de profil et c'est aussi une question de budget. Parce que si l'investisseur est faiblement capitalisé, qui débute, il est obligé de faire un choix. Par contre, pour un jeune investisseur avec peu de moyens, peut-être que le compte-titres aussi peut avoir un avantage. Parce qu'il y a pareil, c'est l'ingénierie financière. Il y a les actions fractionnées depuis quelques années.
Oui, bien
donc,
sûr.
Si on veut acheter des valeurs qui sont très chères et qu'on veut diversifier.
Un bout d'Hermès, voilà, plutôt exactement. Que de payer 2000 ou je ne sais plus combien l'action Hermès aujourd'hui.
Exactement, un dixième de 200 euros sur Hermès, un dixième. Ouais. Et ça, le PEA, c'est impossible de le faire via le PEA,
d'accord.
Un compte-titres. Donc là, effectivement, pour ce type d'investisseur, il va falloir trancher en fonction de son horizon de placement, de ses espérances de gains, etc. Après, pour les investisseurs, on va dire, mieux capitalisés, avec plus d'expérience, effectivement, il n'y a pas d'exclusivité. C'est bien d'avoir les deux. On peut par exemple avoir un PEA sur lequel on a une stratégie un peu buy and hold, on investit sur du long terme. Surtout qu'au bout des 5 ans, on va pouvoir faire des retraits sans clôturer le PEA. Donc là, il y a un intérêt à sélectionner peut-être ce type de valeur. Parce qu'il y a des valeurs qu'on a intérêt à garder.
Fonds de portefeuille.
Fonds de portefeuille toute une vie quasiment. Donc ça, PEA. Et après, aller chercher de la performance ou couvrir son portefeuille avec un compte-titres, avec des approches un peu plus momentum sur des valeurs qui performent avec du trend, de l'analyse technique.
Et une approche un peu plus patrimoniale d'un côté, plus active de l'autre.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Donc si on peut se le permettre, les deux sont complémentaires. Quand je dis se le permettre, il y a la partie financière, mais aussi la partie compétences, temps, donc
sûr.
Vraiment
global
en fait.
Bien sûr, oui, là on est vraiment sur les enveloppes à choisir, mais on a fait avec vous notamment des vidéos sur effectivement les règles pour se lancer dans l'investissement boursier et il faut prendre le temps de le faire. Évidemment, je ne vais pas dire que c'est un métier, mais en tout cas, ça demande du temps et de l'apprentissage pour être au clair avec l'investissement boursier. Bon, PEA, CTO, c'est deux grands incontournables de l'investissement boursier en France. Il y a d'autres enveloppes qui permettent aussi d'investir en bourse, on peut peut-être le rappeler.
Oui, on a parlé du PEA jeune, il y a le PEA PME aussi.
Oui.
Alors ce sont des variantes du PEA que je pense qui ne sont pas forcément intéressantes, sauf si on a vraiment atteint des plafonds et qu'on a des très gros capitaux. En revanche, il y a une autre enveloppe qui est une des enveloppes favorites des Français et auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on veut investir en bourse, je pense à l'assurance vie. Très clairement, l'assurance vie, ça a beaucoup évolué et sur les nouveaux contrats, notamment les contrats qui sont disponibles auprès d'un intermédiaires en ligne, on peut acheter des actions en direct dans ces assurances vie. On a aussi
on n'est pas obligé de passer par des fonds.
Non,
on peut aussi détenir en direct des actions.
On peut détenir des actions en direct dans de nombreux nouveaux contrats. Alors le minimum est plus élevé que sur un compte-titres. Okay. Donc pareil, là, faut regarder au fond de ce qu'on peut mettre et ce qu'on peut mettre et bien diversifier. Donc ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité, et là, ça, avec des capitaux moindres, on peut profiter des gestions pilotées, des gestions sous mandat ETF. Donc si on aime la gestion passive et qu'on veut investir en ETF, il y a des contrats d'assurance vie qui vont permettre vraiment mettre à 100% sur des ETF. Donc et surtout géré par soit un robot advisor avec les conseils d'un humain, soit par un gérant humain. Du coup, ça peut être très intéressant si on veut investir en bourse via des ETF, de penser à l'assurance vie parce que c'est aussi une enveloppe avec une fiscalité attractive.
Très avantageuse. Ouais. Et les ETF, en plus, sont réputés pour être des produits à moindre frais pour s'exposer au marché boursier. Merci beaucoup pour ces grandes clarifications au démarrage de cette année 2025 entre le PEA, le compte titres. On aura évoqué aussi l'assurance vie qui sont les grandes enveloppes disponibles pour investir en bourse. Merci beaucoup Louis Yang qui était avec nous, cofondateur du Café de la Bourse. Entretien que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.